CQFD sur la première.
À présent dans CQFD, le lien entre notre microbiote intestinal et notre humeur, nos états d'âme. Plus la recherche avance, plus on se rend compte que nos petites bactéries intestinales se mêlent de tout. Elles sont liées au diabète, elles sont liées à nos allergies ou encore à notre appétit. Même notre sacro-saint cerveau, pourtant retranché derrière des barrières physiologiques soi-disant infranchissables, ne serait pas à l'abri, Lucia Silig.
Oui, il faut dire qu'on estime qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de milliards de bactéries dans notre intestin. Autant, voire plus, qu'on a de cellules dans notre propre corps. Alors pas étonnant au final qu'elles jouent un rôle important, surtout quand on sait que ces bactéries sont indispensables à la digestion, qu'elles fabriquent des vitamines et nous envoient même probablement des messages pour nous dire que ça suffit, qu'on a assez mangé. Bref, c'est à se demander qui est le maître à bord.
Et alors concrètement, des bactéries de nos intestins qui influencent notre humeur, ça donne quoi ?
Alors pour l'instant, on a surtout des observations chez les souris. Plusieurs études ont montré qu'en agissant sur leur microbiote, on modifie leur comportement. Prenez une souris plutôt peureuse, anxieuse, eh bien on peut la rendre plus aventureuse en changeant les bactéries de son intestin. Mais on est aussi en train de se rendre compte que chez les humains qui souffrent de troubles psychiques, de troubles de l'humeur, le microbiote est parfois altéré. Alors quel est l'œuf, quelle est la poule ? Est-ce que je suis déprimée parce que mon microbiote est détraqué ou est-ce que mon microbiote est détraqué parce que je suis déprimée ?
Oui.
Eh bien, on ne sait pas très bien. Mais ça pose des questions que personnellement, je trouve assez vertigineuses.
Des questions qu'on va aborder avec vous, Guillaume Font. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex de notre studio de Paris, accueilli par Alexandre Lemire. Vous êtes psychiatre, chercheur à la Fondation Fondamentale. On parle des liens entre le microbiote intestinal et l'humeur. Qu'est-ce qu'on entend par humeur, ou juste, c'est quoi, l'envie de siffloter le matin en allant au travail ?
Alors l'humeur, c'est un concept évidemment subjectif, c'est la jauge de notre morale. On a des fluctuations normales de l'humeur dans la vie de tous les jours. Quand on a des bonnes nouvelles, on se sent plutôt gai. Quand on a des mauvaises nouvelles, on se sent plutôt triste. Donc ça, jusque-là, c'est normal. Mm-hmm. Par contre, l'humeur peut se déréguler vers le haut ou vers le bas. Alors c'est plutôt souvent vers le bas qu'on s'en plaint. Et cela donne ce qu'on appelle la dépression, c'est-à-dire une humeur qui reste basse de façon anormale. Et ça commence à retentir sur le fonctionnement, sur le travail, sur la vie de couple, la vie familiale, etc.
Mais cette idée qu'il y a un lien entre le microbiote, ou du moins l'intestin et l'humeur, est-ce que c'est récent ? Ça date de l'essor de la recherche dans ce domaine, dans le domaine du microbiote ? Ou est-ce que c'est déjà une idée qui était plus ancienne ?
Alors, on pense que c'est un effet de mode, parce qu'on en parle beaucoup, c'est très médiatisé depuis 3 années. Mais en vérité, quand on regarde l'historique de la recherche en santé mentale, on voit qu'au début du XXe siècle, il y avait déjà des chercheurs, des psychiatres anglais, qui proposaient de traiter la mélancolie, donc une forme très sévère de dépression, par des extraits de ferments lactiques, c'est-à-dire des bactéries qu'on trouve dans le lait. Donc ça ne date pas d'hier. Mais au cours du XXe siècle, ça a été remplacé par la psychopharmacologie, donc ce qu'on appelle les psychotropes, les antidépresseurs, etc. Donc on a laissé ça de côté pour s'intéresser directement au cerveau, aux neurones. Et là, maintenant, on en revient parce que, comme vous l'avez dit, ce cerveau, il est en interaction avec le reste de l'organisme et il peut être influencé notamment par les bactéries de notre tube digestif.
Voilà, alors ce tube digestif, avec ces bactéries qui s'y trouvent, et puis les liens avec l'état mental, il y a des expériences qui sont assez parlantes, notamment un test qui montre que si on donne à des souris certaines bactéries, ça a le même effet que de leur donner des antidépresseurs, Lucia.
Oui, alors c'est une étude qui date déjà un peu parce qu'elle a été publiée en 2011 par des chercheurs irlandais, mais je trouve qu'elle est particulièrement illustrative. John Cryan et ses collègues de l'université de Cork ont mis en place un dispositif qui est normalement utilisé pour tester les antidépresseurs, comme le Prozac. Ça s'appelle le test de natation forcée.
On fait nager des souris, ce sont de très bonnes nageuses. Mais si on les met dans une situation où il n'y a aucun moyen de s'échapper, au bout d'un moment, elles abandonnent, elles se laissent aller au désespoir.
Alors en guise de situation désespérée, on plonge les souris dans des cylindres verticaux avec de l'eau à l'intérieur. Lorsqu'elles se rendent compte qu'elles n'ont aucune chance ni de toucher le fond, ni de grimper hors de l'eau, elles arrêtent de nager, elles s'immobilisent et se laissent flotter dans une sorte de désespoir passif. Sauf que si on les traite avec un antidépresseur, elles nagent plus longtemps. Et c'est ça qu'on mesure, le temps avant de renoncer, une sorte d'indicateur d'attachement à la vie en quelque sorte.
D'accord, oui, c'est assez parlant. Et les bactéries intestinales dans tout ça ?
Eh bien, John Cryan, lui, il a tenté une variante. Au lieu des antidépresseurs, il a fait manger à certaines souris des bactéries assez communes appelées Lactobacillus rhamnosus.
Si on compare les animaux à qui on avait donné des lactobacillus avec ceux à qui on avait juste donné du bouillon, eh bien, ils essayaient de s'échapper pendant plus longtemps. Ils se comportaient comme si on leur avait donné du Prozac.
already on Prozac. C'est assez fou. Et du coup, alors cette question, Lucia, c'est évidemment la question, c'est évidemment de savoir par quel mécanisme ces bactéries ont pu avoir une influence sur le comportement des souris.
Alors, une des pistes, ce sont les neurotransmetteurs. Vous savez, la sérotonine, la dopamine, ces molécules chimiques qui transmettent des messages entre nos neurones, notamment pour réguler notre humeur. Eh bien, ces neurotransmetteurs, il se trouve que les bactéries en produisent aussi. Le type de bactérie qui a été administré aux souris dans cette expérience est connu pour produire un neurotransmetteur qu'on appelle GABA. Et ce GABA, il a un effet inhibiteur, il calme l'activité nerveuse, un peu comme un anxiolytique.
Oui, mais comment ce message d'apaisement arrive finalement, ou arriverait, disons, jusqu'au cerveau?
Eh bien, c'est exactement ce que John Cryan et ses collègues ont cherché à élucider.
On a essayé de comprendre comment, au juste, des bactéries dans l'intestin pourraient envoyer des signaux au cerveau et influencer le comportement de la souris. Il y a bien ce nerf. C'est un des nerfs crâniens. Il est très long, il se balade. On l'appelle le nerf vague. On a donc pratiqué une vagotomie, c'est-à-dire qu'on a retiré cette autoroute de la communication. Et une fois que c'était fait, tous les effets des lactobacillus disparaissaient.
Oui, effectivement, ce nerf vague, c'est une autoroute de communication entre l'intestin et le cerveau, et donc une des pistes privilégiées.
Une des pistes privilégiées, c'est-à-dire que voilà, on est sûr de rien à ce stade, c'est
oui,
ça ?
C'est ça. À ce stade, on a des hypothèses, mais la question du mécanisme de transmission reste ouverte, même si, depuis l'expérience du test de natation forcée, beaucoup d'autres sont venus compléter le tableau. Des chercheurs ont notamment montré que si on prend deux lignées de souris, une lignée de souris plutôt aventureuse et une autre lignée de souris plus anxieuse, plus timide, et qu'on échange leurs microbiotes intestinaux, les souris aventureuses deviennent plus peureuses et vice-versa. Et on a aussi remarqué, dans l'autre sens, que les hormones du stress favorisent la prolifération de certaines bactéries, pas forcément les meilleures, au détriment d'autres. Et c'est ce que montre une nouvelle expérience de l'équipe de John Cryan.
On vient de publier une étude sur l'action des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est la nourriture que les bactéries bénéfiques, préfèrent. Or, nous avons montré que si l'on stresse des animaux, ils ont moins de ces bonnes bactéries. Mais si on les traite avec des prébiotiques, on peut bloquer cet effet, on peut atténuer les effets du stress chronique sur les comportements dépressifs, comme dans le test de natation forcée, sur l'anxiété, sur le comportement social, sur le système immunitaire, bref, sur la réponse au stress en général.
Et donc, on obtient beaucoup d'informations de toutes sortes qui indiquent que les microbes jouent un rôle central.
Qui plus est, dans une étude publiée l'année dernière, nous avons examiné le microbiote de personnes déprimées et nous avons constaté que ce microbiote manquait de diversité. Nous avons ensuite transféré ce microbiote chez des rats et cela a de nouveau modifié le comportement et la physiologie des animaux. Ils étaient plus anxieux, ils souffraient de ce qu'on appelle l'anhédonie, la perte de plaisir à faire des choses que vous aimiez faire avant. Il y avait aussi des changements dans leur réponse inflammatoire. Et tout ça, ça nous aide à passer des simples corrélations au lien de cause à effet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le microbiote qui contrôle beaucoup de ces comportements centraux dans les troubles de l'humeur.
Alors ça fait beaucoup d'études, beaucoup de nouvelles données ces dernières années, avec toujours une même conclusion, les bactéries de nos intestins influencent notre humeur, mais on a encore du mal à expliquer comment, on l'a entendu, il y a plusieurs théories, on a notamment évoqué les neurotransmetteurs que les bactéries produisent. Guillaume Font, je rappelle que vous êtes psychiatre, chercheur à la Fondation Fondamentale, ces neurotransmetteurs constituent-ils selon vous une piste intéressante ?
Alors oui, les neurotransmetteurs font partie des pistes intéressantes. Par contre, il faut bien souligner qu'en conditions normales, ces neurotransmetteurs n'influencent pas le cerveau. Sinon, ça voudrait dire qu'en fonction, en mangeant par exemple des yaourts, on aurait tout de suite un effet euphorisant. Donc ça ne serait pas possible pour notre cerveau. Donc le cerveau est protégé de cela. Donc normalement, il y a une première barrière qui est celle de l'intestin et une deuxième barrière qui est celle qui entoure le cerveau. Par contre, dans certaines conditions anormales, donc là, John Cryan a parlé de l'inflammation. Cette inflammation, donc c'est une réaction normale de l'organisme face à une agression, une attaque, une perturbation, et bien cette inflammation peut modifier la perméabilité de l'intestin. Et donc, il peut y avoir des choses qui commencent à circuler dans le sang. Donc, c'est ce qu'on appelle des marqueurs anormaux bactériens. Et ça, ça peut fortement perturber, créer de l'auto-immunité, perturber le cerveau, etc. Dans les autres pistes qu'on peut signaler, il y a le nerf vague aussi, qui est le nerf qui innerve notre intestin. C'est le plus long nerf de l'organisme. Et 80% des informations de ce nerf vont du bas vers le haut, c'est-à-dire 80% informent notre cerveau sur ce qui se passe dans l'intestin. Donc ça, c'est une des pistes aussi très intéressantes. Et puis, il y en a encore d'autres qu'on est en cours d'exploration.
Oui, alors John Crayon parle du microbiote altéré des personnes déprimées. Est-ce qu'on a aussi fait d'autres observations qui vont dans ce sens? Des observations où plutôt que de partir du microbiote, on part d'un trouble psychique et on se rend compte que la personne a aussi un microbiote particulier?
Exactement. Donc ça, c'est la prochaine étape de la recherche. On s'est rendu compte que chez des patients, c'est pas que dans la dépression, on est en train d'étudier ça énormément dans l'autisme chez les enfants, parce que donc c'est une maladie qui se déclenche avant 3 ans, et on a retrouvé des perturbations du microbiote chez les enfants qui souffraient d'autisme, et on a aussi pu le démontrer chez des personnes adultes qui souffraient de troubles bipolaires et de schizophrénie. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Est-ce que c'est la perturbation du microbiote qui a déclenché le trouble mental? On a de fortes raisons de le penser, parce que les études animales que vous avez citées ont démontré que les bactéries dans notre tube digestif influençaient le développement du cerveau. Dans les premières années de la vie, on a pu démontrer que des perturbations des bactéries pouvaient entraîner des perturbations du développement du cerveau. Donc ça, c'est plutôt du côté de l'autisme, puisque c'est une maladie qui se déclenche très tôt. Et donc chez les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, donc c'est un trouble de l'humeur qui alterne des dépressions et des phases d'euphorie, on retrouve ces perturbations là aussi.
Vous parlez de perturbation des bactéries, ça veut dire que les gens qui ont un microbiote déséquilibré ont les mêmes bactéries que les autres, sauf qu'elles sont perturbées, ou on peut trouver d'autres types de bactéries dans ces microbiotes déséquilibrés?
Alors, c'est souvent des histoires d'équilibre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de deux choses. On parle de perturbation en quantité, c'est-à-dire il peut y avoir une diminution globale du nombre de bactéries dans le tube digestif, et il y a des perturbations en qualité, c'est-à-dire que certaines espèces qui devraient être présentes normalement deviennent absentes ou moins présentes, et que d'autres qui, au contraire, devraient être en toute petite quantité deviennent très importantes, et c'est ces bactéries-là qui perturbent le fonctionnement, c'est-à-dire qu'elles peuvent créer de l'inflammation, ce sont des bactéries nocives. Normalement, les bactéries de notre tube digestif, leur première fonction, c'est de nous protéger. Et quand cette protection diminue par tout un tas de facteurs, hein, ça peut être par l'alimentation, ça peut être par la consommation d'alcool et de tabac, et puis ça peut être aussi par des facteurs qu'on ne connaît pas encore, et bien quand ces mécanismes de protection-là sont diminués, donc ça crée des perturbations qui ensuite vont perturber l'ensemble de l'organisme.
Mais est-ce qu'il y a un microbiote qui est normal, ou est-ce qu'il y a toutes sortes de microbiotes différents dans la population?
C'est une excellente question. Donc l'étude que vous avez citée suggère qu'il y a ce qu'on appelle des entérotypes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un mot compliqué? Pour dire qu'en fait, on trouve plusieurs types de microbiotes qui, a priori, ne sont pas pathologiques. Hein, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs types de microbiotes chez des individus qui n'ont pas de problème de santé. Et on a pu démontrer que ces types de microbiotes-là ne dépendaient ni de l'âge, ni du sexe, ni de l'ethnie. C'est-à-dire qu'on a inclus des Américains, des Hollandais, des Japonais, des Français, des Italiens. Et on n'a pas trouvé de facteurs clairs, faciles à identifier. Donc on est en train de se poser la question, est-ce que finalement ce serait pas plus intéressant en médecine de caractériser les gens par leur microbiote que par exemple par leur groupe sanguin, la couleur de leurs yeux, etc.
Et tout ça, on se dit, enfin, et on l'a déjà dit, hein, c'est assez vertigineux, c'est à se demander quand on n'a pas le moral, si c'est nous ou si c'est notre microbiote qui avons le blues.
Alors, donc ça, effectivement, ça veut dire, quand j'ai pas le moral, je peux aussi me poser la question, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de mes bactéries? Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je mange des produits frais? Est-ce que je fume? Est-ce que je bois de l'alcool? Ça, on sait que ce sont des facteurs qui perturbent l'humeur. Avant, on pensait que c'était des effets directs sur le cerveau. Maintenant, on sait que ça peut aussi passer par les bactéries, parce que il y a une équipe qui travaille à Créteil, par exemple, sur les liens entre l'alcoolisme et les bactéries du tube digestif.
Et puis, tout ça, c'est un peu désacralisant pour notre cerveau de penser que, pour finir, il n'est pas tellement le grand maître à bord, qu'il est peut-être téléguidé par des petits minuscules organismes.
Alors, c'est la suite de la désacralisation de l'humanité, effectivement, parce que donc il y avait déjà eu Copernic qui nous a expliqué que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Après, on a eu Freud qui nous a expliqué que tout était pulsion inconsciente. Et maintenant, on est dans cette fameuse théorie de la manipulation par les micro-organismes. Alors, on a des démonstrations très claires dans le monde du vivant, hein, que des parasites peuvent manipuler leurs hôtes. Et maintenant, on est en train de prendre conscience que finalement, vu qu'on a plus de bactéries bactéries dans le corps que de cellules, on pourrait se concevoir comme des exosquelettes qui transporterions comme ça nos microbiotes et que finalement peut-être que toutes nos interactions, se serrer la main, s'embrasser, etc., n'auraient peut-être pour but que de s'échanger nos bactéries pour qu'elles puissent choisir comme ça ce qui leur convient le mieux. Voilà. Bon, donc effectivement, c'est assez vertigineux.
Bon, ça pose la question, alors vous m'excuserez de réagir en exosquelette, en individu qui pense encore avoir des choses à demander.
L'illusion de pensée.
Voilà. Est-ce que, pour finir, ça a un sens de faire la différence entre nous et notre microbiote? Est-ce qu'au final, on n'est pas un tout? Est-ce que ce n'est pas une part importante de qui nous sommes, ce microbiote?
Alors, je pense que d'un point de vue philosophique, c'est extrêmement important. On avait l'idée, à un moment donné, que l'homme était détaché de la nature et que, voilà, il pouvait la dominer, et, voilà, qu'il était indépendant. Il y a eu toute la conception religieuse, hein, avec une âme détachée, etc., et un homme détaché de la création, complètement à part de la création. Et ces études-là nous rappellent que nous sommes à la fois un mélange de psychisme et de biologie, et que les deux sont solidement intriqués l'un dans l'autre, l'un ne va pas sans l'autre.
Mais donc, si ça, c'est une part importante de nous-mêmes, ce microbiote, ben, il faut qu'on se renseigne. Comment est-ce qu'il se forme? Comment est-ce qu'il se compose? Est-ce que tout est joué à la naissance, via le transfert de bactéries par la mère à l'accouchement? Ou est-ce que c'est ce qu'on mange? Notre environnement? D'autres choses? Qu'est-ce qui influence sa composition?
Alors ça fait partie des grandes questions de la recherche actuelle. Alors ce que l'on sait, c'est que le microbiote se forme dans les deux premières années de la vie. Ensuite, il reste relativement stable. Et donc on sait par exemple que les enfants qui sont nés par césarienne ont des microbiotes qui sont différents, ce qui ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien de naître par césarienne. Hein. Il faut faire la différence d'ailleurs entre les différents types de césariennes. Et donc actuellement, dans beaucoup de cliniques dans les pays anglo-saxons, maintenant ce que l'on fait, c'est qu'on propose pour les femmes qui naissent par césarienne de poser un tampon dans le vagin de la mère pour ensuite en badigeonner les voies aériennes supérieures de l'enfant, donc le nez et la bouche, pour que l'enfant puisse se coloniser par les bactéries du vagin de sa mère, qui sont effectivement les bactéries à l'origine de la formation du microbiote et qui ont pour but de protéger l'enfant d'autres virus ou bactéries beaucoup plus agressifs qui pourraient nuire à sa santé. Donc ça, c'est une première observation. Une deuxième observation, c'est qu'effectivement un changement de régime alimentaire, donc on a pu démontrer que si on passe par exemple d'un régime très riche en graisse et en sucre, à un régime très riche en protéines et en fibres, en 2 semaines, les bactéries du tube digestif sont modifiées. Donc on a cette capacité, cette souplesse dans notre tube digestif de s'adapter aussi à l'alimentation que nous absorbons. Donc ça, c'est un message très important pour les personnes qui ont par exemple des troubles digestifs où on n'a pas retrouvé de cause identifiée. On pense maintenant que cette cause peut se situer dans les bactéries et donc il ne faut absolument pas négliger le changement d'alimentation. Et maintenant, il y a tout un courant de recherche qui montre que notre alimentation influence notre psychisme, notre humeur.
Oui, c'est ça. Alors, on est vraiment arrivé au dernier chapitre qui nous intéressait, c'est-à-dire ce chapitre de « Que peut-on faire ?» avec vous, Guillaume Font. Et donc, prioritairement, modifier son alimentation, éviter la graisse et le sucre, c'est ce que vous nous dites.
Alors, il est très important de repérer effectivement dans notre alimentation que beaucoup des produits que nous absorbons actuellement ont perdu de leur qualité nutritive et donc notamment tous les produits qui sont modifiés. Et donc du coup, on a beaucoup de sucre caché dans l'alimentation. Donc pour les personnes qui justement se posent la question comment je peux faire pour prendre soin de mon microbiote, bon, il n'y a pas de grande découverte. Hein. Il s'agit de manger des produits frais, de privilégier les légumes verts. Il y a ce qu'on appelle les prébiotiques, c'est les aliments qui vont favoriser la pousse des bonnes bactéries dans l'intestin. Et les probiotiques, là, ce sont carrément des bactéries qu'on va absorber. Donc, on peut en trouver, par exemple, dans les yaourts. Par contre, la majorité de ces bactéries sont décapitées par l'estomac. C'est la fonction de l'estomac de stériliser l'alimentation. Donc, parfois, il faut prendre des compléments alimentaires. Mais donc là, on est en train d'étudier l'efficacité de ces compléments alimentaires de probiotiques dans la dépression. Il y a une revue de la littérature qui a été publiée récemment avec des premiers essais, donc il y a une dizaine d'études actuellement qui suggèrent que ça pourrait être intéressant de proposer aux personnes dépressives de prendre des probiotiques en complément des traitements habituels.
Alors ça, c'est les probiotiques et les prébiotiques que vous signaliez tout à l'heure, c'est quoi?
Donc les prébiotiques, c'est tout ce qui est dans les salades, par exemple salades vertes, qui sont riches en fibres, hein, donc qui vont favoriser la pousse des bactéries, parce que nous ne digérons pas la cellulose qu'il y a dans la salade, et par contre les bactéries, elles, s'en régalent. Et donc, on en trouve aussi dans tous les légumes verts. Donc, ce que l'on recommande, par exemple, c'est qu'à chaque repas, la moitié de l'assiette soit composée de légumes verts. Et ensuite, de limiter aussi tout ce qui est inflammatoire dans l'alimentation, c'est-à-dire la viande et les laitages.
Mais ça veut dire que manger de la salade, ça peut vous redonner l'envie de siffloter en allant au travail?
Alors, moi, à titre personnel, j'ai une conviction là-dessus. Je crois que le proverbe disait « quand tu manges de la salade, tu n'es jamais malade », quelque chose comme ça. Je recommande vraiment à mes patients, alors ça fait sourire parce qu'on dit « le docteur Guillaume Font, il veut soigner la dépression avec des yaourts et de la salade ». J'ai vraiment la conviction qu'il est très important d'absorber des fibres et des protéines en quantité importante parce que actuellement, notre alimentation est vraiment trop saturée de sucre et de graisse. Et sans que ça se voit forcément. C'est-à-dire que ça peut être dans les plats en sauce, ça peut être dans les plats préparés qu'on achète tout près quand on n'a pas le temps de manger. Et donc c'est assez compliqué de faire la part des choses. Et donc par rapport à ça, vraiment, je recommande aux personnes qui nous écoutent, s'ils le peuvent, d'essayer de manger une salade verte par jour. Parce que ça augmente le volume du bol alimentaire, donc ça cale plus vite, ça remplit plus vite l'estomac. C'est hypocalorique et en plus, ça nourrit les bactéries du tube digestif.
Mais une salade complète
Alors moi, ce que je recommande, alors je vous donne ma petite recette.
Oui, hein, allez-y. Oui.
Ce que je recommande, c'est une salade verte en fait, dans laquelle on va pouvoir rajouter plein de choses qui sont également bonnes à la fois pour le microbiote et pour l'organisme, notamment des oméga 3 qu'on peut trouver sous la forme d'huile d'olive ou d'huile de noix. Les noix sont très riches en oméga 3, donc on peut rajouter des noix. Et après, ce que je propose pour agrémenter, c'est par exemple du fromage de chèvre pour éviter la caséine de lait de vache qui peut être inflammatoire, et de mélanger ça avec du miel parce que le chèvre miel, ça plaît beaucoup et ça surprend agréablement dans les salades. Et donc là, vous avez un plat très rapide à préparer et que vous pouvez proposer en toutes circonstances à vos invités, etc.
Quand nos intestins et les bactéries qui s'y trouvent, enfin qu'on y trouve par milliards, influencent notre humeur, de s'y préparer par Lucia Silig et notre invité aujourd'hui dans CQFD, Guillaume Font. Merci d'être venu aujourd'hui dans l'émission.
Merci.
Je rappelle que vous êtes psychiatre, chercheur à la Fondation Fondamentale.
CQFD sur la première.